France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un ouragan sur le ring. Récit d'un match de boxe entré dans la légende, le combat entre José Ferrer et Marcel Cerdan. Le 11 octobre 1942, en plein cœur d'un Paris occupé, se déroule la finale du championnat d'Europe de boxe des poids moyens. Ce soir-là, deux hommes que tout oppose, tant par leur style, leur personnalité, que par leurs convictions politiques, vont s'expliquer sur le ring. D'un côté, José Ferrer, fasciste espagnol de la première heure, dont le salut nazi provoque la colère de la foule. De l'autre, celui que les spectateurs acclament, le français Marcel Cerdan. Le match se déroule au Vélodrome d'hiver, le Veldiv, là où quelques semaines plus tôt, l'État français collaborationniste, ses policiers et ses gendarmes, ont procédé à la plus large arrestation de juifs étrangers sur le territoire. Ce 11 octobre 1942, c'est donc au même endroit, dans une enceinte pleine comme un œuf, qu'un ouragan s'apprête à souffler sur le ring, sous les yeux de soldats allemands en uniforme et de spectateurs parisiens assoiffés de revanche. Alors, qui de Marcel Cerdan ou de José Ferrer va l'emporter? Qui de l'homme libre ou du fasciste sera champion d'Europe? Qui de la France libre ou de l'occupant nazi triomphera ce soir? Sous les gants, la métaphore d'une période heurtée, bouleversée, tragique. Notre invité aujourd'hui, Jean-Philippe Lustig, journaliste sportif au journal L'Équipe, notre partenaire une fois par mois. Il est l'auteur du grand livre de la boxe paru en 2019 aux éditions Marabout. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec le journal L'Équipe donc, et avec Retro News, le site de presse de la BNF, récit documentaire Adrien Cara, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Charles de Cilia.
Mes petits, voici André Bibal qui ce soir vous présente...
Marcel Cerdan. Il est là devant moi, il est un peu impressionné par le micro, il est plus impressionné par le micro que sur un ring. À vous Marcel Cerdan.
Bonsoir mes petits enfants. Je vais essayer de vous raconter une petite histoire de ma jeunesse, de mon enfance. J'étais tout jeune, 8-9 ans, quand j'ai fait mon premier combat de boxe. J'ai réussi à gagner au poids. Mais j'avais gagné surtout pour la prime parce que le lendemain, on devait me remettre des prix. Hein, et quand je m'attendais à avoir du chocolat. Et ce jour-là, il n'y en avait pas à mon avis des espadrilles.
Et vous avez pleuré?
Je me suis mis à pleurer. Et j'ai pleuré tant et tant qu'on est allé chercher un kilo de chocolat pour me le remettre.
En 1942, Marcel Cerdan, c'est déjà un nom, une gueule, un palmarès. Une icône qui, match après match, construit sa légende. Cerdan, personnage admiré et respecté aux quatre coins d'une Europe alors déchirée par la guerre. Dans la presse ou les magazines, les photos du boxeur s'affichent en une. On distingue le visage d'un gamin dans la vingtaine, un corps trapu, taillé dans la roche brute, un torse et des épaules poilues, une mâchoire carrée, quelques dents cassées. Cerdan a le profil type du bagarreur. Mais là, et c'est très paradoxal, il y a chez lui aussi... un côté séducteur, une épaisse tignasse de cheveux qu'il balaye avec soin en arrière, ce regard profond qui vous interpelle, et ce large sourire qu'il arbore systématiquement. Bref, si on ne le savait pas boxeur, Cerdan pourrait presque passer pour une vedette hollywoodienne de son temps. Sur le ring, Cerdan évoque l'image d'un dur à cuire, d'un cogneur, d'un homme qui expédie chacun de ses coups, non pas simplement pour frapper, mais pour pulvériser ses adversaires. Ce boxeur est indomptable. Une fois ses gants filés, une fois le torse nu, il frappe, il cogne, il bastonne, et ne s'arrête que lorsque la cloche de l'arbitre sonne la fin des rondes. Mais en dehors du ring, en dehors de la scène, en dehors de la lumière, Marcel Cerdan, c'est tout le contraire. Lorsqu'il abandonne ses apparats professionnels, qui se résument à un short et des chaussures, on découvre un personnage doux, discret, généreux. Un homme qui aime la foule, mais qui en réalité vit assez mal sa célébrité. Ceux qui le côtoient le disent, il y a chez Cerdan cette humilité, cette simplicité au contact des autres, qui force le respect. trois de ses victimes sur le ring, enfin victimes si j'ose dire, et qui deviendront ensuite ses amis, les boxeurs Diouf, Despo et Falchak, racontent chacun une anecdote sur lui au micro de la RTF.
J'ai connu Marcel vraiment très très bien. C'était un bon ami, un grand ami, parce que Marcel, sur le ring, c'était le vrai lion, mais à part le ring, c'était vraiment un grand camarade, un grand ami.
Marcel m'a touché d'entrée, dans les 10 premières secondes, il a dû me toucher d'un gauche-droit, n'est-ce
oui.
pas ? Et j'étais pratiquement knock-out. Au troisième round, il m'a envoyé à terre, je me suis relevé.
Mais machinalement, automatiquement.
Je l'ai lu, moi, je ne sais pas.
Mais
vous
oui.
comprenez ? Je l'ai lu sur le journal.
Parce que si vous étiez conscient, vous auriez dû, lorsque vous êtes tombé à terre là, pour la deuxième fois, vous seriez resté au moins jusqu'à 8 secondes
Exactement.
Pour récupérer, n'est-ce pas ?
Je me souviens, j'ai aucun souvenir de mon combat contre Marcel.
Marcel Cerdan, c'est un grand champion. Oh, il était très gentil, très doux, très doux. Tu es doux comme un moineau. Il jouait aux cartes beaucoup, il s'amusait beaucoup.
Il aimait beaucoup s'amuser.
Ah oui, beaucoup jouer.
Et pas méchant du tout.
Pas méchant du tout.
Marcel Cerdan, c'est l'histoire d'une carrière sportive hors norme. Mais c'est aussi l'itinéraire d'un garçon qui aurait pu rester toute sa vie dans l'ombre. Un récit où se côtoient le courage, le talent, la ténacité. Il est né le 22 juillet 1916 à Sidi Belabbès, en Algérie. Bien loin de la métropole où, au même moment, soldats français et tirailleurs africains se battent contre les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Une famille pauvre, des parents contraints de migrer vers le Maroc dans l'espoir de sortir de la misère. À 5 ans, Marcel a déjà un chemin vers la boxe tracé par ses trois frères aînés, tour à tour champion d'Afrique du Nord des poids-plumes. Enfin, un père passionné par le noble art et qui pousse Marcel, son dernier garçon, à monter lui aussi sur le ring. Antonio le père veut voir son fils gagner, briller, et au passage, il espère que cela lui rapportera un peu d'argent. Conséquence, il pousse Marcel à boxer autant que son corps d'enfant le lui permet, alors que, savoureux paradoxe, dans la cour de récréation, c'est celui qu'on pousse et qu'on bouscule, Marcel. Mais sur le ring, il se métamorphose et inverse les rôles. Il quitte l'école à 11 ans. Entre l'entraînement avec Lucien Roup, son manager, et les combats, il devient tour à tour apprenti mécanicien, plombier, commis de chantier. Sur le ring, Marcel, gamin, chétif et frêle, est en revanche très rapide. Il l'anticipe. Et puis, il est endurant. Et surtout, lorsqu'il frappe, il fait mal. Très mal. Tous les autres ados qui ont eu le malheur de se retrouver face à lui en savent quelque chose. Au mois de novembre 1934, il dispute son premier match professionnel. Il a 16 ans, son adversaire 18. Le match se déroule au Petit Central de Casablanca. Georges Hutin est l'arbitre de la rencontre. Des années plus tard, il raconte.
Il avait étendu son adversaire avec une telle puissance que l'on sentait déjà en lui l'étoffe d'un grand boxeur. Je m'étais intéressé à lui dès cette époque, non pas seulement parce qu'il avait facilité ma tâche d'arbitre en gagnant par KO, mais pour sa simplicité et ses qualités de cœur. Il menait une vie matérielle très difficile, ses parents étant d'origine très modeste, et où les fins de mois n'étaient pas très commodes. J'avais pu faciliter son déplacement en France, ainsi que celui de son manager Lucien Roup. L'un et l'autre me conservaient un grand attachement et venaient souvent me demander conseil. Devenu un grand champion, Marcel Cerdan avait conservé cette modestie naturelle qui faisait son charme.
À partir de cette première victoire, et pendant 6 ans, au rythme d'un combat par mois, Cerdan enchaîne les matchs et fait plier les plus grands. Un début de carrière où se succèdent des victoires avec panache, une gloire par la sueur et pas mal d'échymoses. Un à un, les champions du Maroc, d'Algérie et de Métropole tombent sous ses coups. À chaque fois, Cerdan gagne, le plus souvent en quelques rounds. À Paris, la Salva Grande devient le théâtre de ses exploits. Le nom de Cerdan apparaît alors dans les colonnes du journal Loto, l'ancêtre du journal L'Équipe. Et il s'affiche même en une lorsqu'il remporte à 23 ans le titre de champion d'Europe des poids moyens. On le surnomme alors le bombardier marocain, en référence à sa jeunesse au Maghreb. Le 1er septembre 1939, la guerre éclate et Cerdan doit arrêter la boxe. En juin 1940, la France reconnaît sa défaite face aux nazis. Cerdan, qui se trouve au Maroc, est démobilisé. Mais sans l'accord du gouvernement de Vichy, ses déplacements sont rendus difficiles. impossible pour lui, par exemple, de se rendre en Amérique pour se battre, et ce, pour le titre de champion du monde. C'est en 1941 que Cerdan remet les gants après un an et demi sans avoir boxé. Et il enchaîne une dizaine de victoires. Certes, à un peu moins de vitesse, à un peu moins d'assurance, mais toujours cette même détermination lorsqu'il arrive sur le ring. En décembre, à Nice, il accepte de boxer au profit des prisonniers de guerre. Le gouvernement Vichy lui a promis que s'il combattait ici, il serait ensuite autorisé à partir à New York. Vichy ne tiendra jamais parole, Cerdan ne recevra aucune autorisation. Imperturbable, il continue de s'entraîner, de travailler ses coups, sa technique. À un journaliste qui l'interroge, il donne sa carte d'identité de boxeur.
Tout d'abord, je voudrais te demander, Marcel, à quel poids es-tu ?
73 kilos.
Tu sais, je vais faire absolument comme si j'étais un employé de préfecture qui te délivrerait une carte d'identité. Quelle taille ?
1m69.
1m69, 72 kilos ?
72 kilos.
C'est pas mal, dis donc. Qu'est-ce que tu fais comme tour de poitrine ?
Au repos ?
Au repos.
1 mètre juste.
1 mètre et inspiré ?
11. 1m11.
Ça fait une différence de 11 cm, mais c'est extraordinaire, moi qui arrive à peine à 7, dis donc.
Non, c'est parce que j'ai des dorsaux.
Des dorsaux, oui, d'ailleurs, on voit que tu es vraiment bien battu.
Arrive le printemps 42, année charnière dans la carrière de Cerdan. À 26 ans, il veut récupérer son titre de champion d'Europe. Repoussé à de nombreuses reprises, parsemé d'incertitudes, le combat est prévu pour la fin septembre à Marseille en zone libre. Dans la cité phocéenne, l'organisation se met en place pour accueillir les deux champions. On prépare aussi la billetterie. Cerdan arrive début septembre pour s'y entraîner. Seulement voilà, coup de théâtre. À deux semaines de l'échéance, le boxeur découvre que le combat n'aura pas lieu ici, mais à 660 km de là, à Paris, en zone occupée. Cerdan fait donc ses valises et prend le train pour la capitale. Quand un journaliste l'interroge pour savoir s'il se sent en forme pour gagner et récupérer son titre, il répond avec humilité, comme il l'a toujours fait avant chaque combat.
Évidemment, c'est une question un peu bête que je vous pose, mais je voudrais que vous le disiez à tous les auditeurs, et vous savez que les auditeurs français vous soutiennent, vous aiment beaucoup et attendront avec impatience le résultat de ce match.
Ben, ce que je peux dire, c'est que je vais disputer ce combat avec tout mon cœur, avec toutes mes forces.
Mercredi 30 septembre 1942, Paris. Sur les kiosques à journaux de la capitale, des affiches font la réclame du combat entre Marcel Cerdan et José Ferrer. Le match doit avoir lieu ce soir au Vélodrome d'Hiver, l'une des plus grandes enceintes sportives de la capitale. La recette atteint un record, plus d'1 420 000 francs de l'époque. Un montant que le gouvernement de Vichy s'engage à reverser aux prisonniers de guerre. Si l'événement lui-même est très attendu, son cadre, sa scène et son contexte offrent un portrait sinistre de Paris sous l'occupation. Il y a d'abord le lieu choisi, le Vélodrome d'Hiver, le Veldiv. Endroit bien connu des Parisiennes et des Parisiens qui venaient ici avant la guerre faire du patin à glace ou assister à des épreuves sportives en tout genre. Or, c'est ici même, au Veldiv, que quelques semaines plus tôt, à la mi-juillet, s'est déroulé l'un des actes les plus abominables de la collaboration. Sur ordre du gouvernement de Vichy, policiers français et gendarmes arrêtent, rassemblent et enferment plus de 13 000 juifs étrangers, parents et enfants. Ils sont tous innocents, bien sûr, mais qu'importe, aux yeux du gouvernement de Vichy, ils seront tous déportés. Une grande majorité d'entre eux recevra un aller simple vers la mort, à Auschwitz. Les autres seront emmenés au camp de Drancy, sorte d'antichambre de la mort. Des 13 000 déportés, seule une centaine reviendra en vie. Cette rafle d'Iveldiv, organisée avec zèle par le secrétaire général à la police René Bousquet, sera en partie niée, démentie, minimisée. Il faudra attendre 53 ans pour qu'un président de la République reconnaisse enfin et pour la première fois les fautes du passé afin de ne rien occulter des heures sombres de l'histoire.
Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondé par des Français, secondé par l'État français.
L'autre malaise vient du portrait à deux visages de cette foule qui se presse dans les gradins du Vélodrome d'hiver. Au premier rang et dans les loges, on distingue de petits groupes de soldats allemands en uniforme. Eux n'ont pas eu à payer leur place ni à faire la queue pour entrer. Terrible portrait de ce Paris occupé. En tout cas, cela fait plus de 3 mois que le monde de la boxe parle de cette rencontre sommet entre l'Espagnol Ferrer et le Français Cerdan. 3 mois que les spéculations vont bon train. Cerdan, qui, rappelons-le, n'a pas boxé pendant presque 1 an et demi à cause de la guerre, sera-t-il au niveau de l'Espagnol ? Ce Ferrer, dont la presse raconte qu'il renvoie un à un ses adversaires sur un brancard. Mais les derniers combats de Cerdan sont rassurants. Il a démontré à ceux qui en doutent qu'il est en excellente forme. Comme en témoigne son entraîneur, Lucien Roupe.
Les 15 jours qui viennent de passer ici lui ont fait un bien énorme. Il a toutes les qualités possibles, de vitesse, de précision, et il fera certainement un très beau match.
Cerdan a perdu son dernier match, disqualifié par un coup jugé trop bas, trop dangereux. Il n'en reste pas moins que le bombardier marocain a survolé tous ses matchs de l'année. Alors, que va-t-il se passer sur le ring ? Cerdan peut-il faire jouer son expérience et prendre l'ascendant sur Ferrer ?
4 boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Boxe, boxe, OTS de pierre. 4 boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune punch. Boxe, boxe, lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Boxe, 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 il faut être vainqueur. 4 boules de cuir sur 4 pieds de guerre bombardent le plexus. Boxe, boxe, l'angle du maxillaire. 4 boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Boxe, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est deux et champion. Boxe, 4 boules de cuir et soudain de qui roule, répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, boxe. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve, et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on débande mes mains, Kid Marin vient me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche, et j'aurai ton sourire, boxe. Comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes poings. Même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire. 4 boules de cuir, 4 boules de cuir. Boxe, 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 boxe.
Aujourd'hui, Marcel Cerdan.
Affaires sensibles sur France Inter.
Au Veldiv de Paris, le Français Marcel Cerdan et l'Espagnol José Ferrer, ceinture blanche, se disputent le titre de champion d'Europe des poids moyens.
Mercredi 30 septembre 1942, Paris, Vélodrome d'hiver. À quelques minutes du match, l'un des 3 juges de la rencontre vient dans la loge de Marcel Cerdan. Au boxeur et à son manager, Lucien Roupe explique que ce soir, il faut finir le match le plus tôt possible, afin, dit-il, que les spectateurs puissent rentrer chez eux avant le couvre-feu. Puis, il exige que le boxeur français lui remette sa ceinture de protection pour le bas-ventre et le pubis. Celle-ci vient d'être subitement interdite par la Fédération internationale. Roupe crie au scandale et surtout, il dénonce un danger pour son boxeur. Cerdan, lui, écoute et ne bronche pas. Il est dans son match. Il a Ferrer en ligne de mire. Cerdan bouillonne, l'ouragan s'apprête à souffler. Quelques instants plus tard, lors de son entrée dans la salle, la foule acclame le bombardier marocain. Certains crient « Cerdan, écrase-le !» Alors, d'un pas calme et sans empressement, le boxeur français marche vers le ring. Il enjambe les cordes, se tient droit face à la porte d'où doit entrer son adversaire. Lorsque Ferrer arrive, il se fait immédiatement huer par le public. Certains journalistes racontent que c'est parce qu'il a fait peindre une croix gammée sur son peignoir. D'autres affirment que c'est parce que son soigneur porte un uniforme d'une unité militaire rattachée à l'armée allemande. Le boxeur espagnol semble bien décidé à jouer jusqu'au bout cette carte de la provocation. Toujours après ce qu'en disent les témoins, la colère du public redouble après qu'une fois entré sur le ring, Ferrer toise la foule et dresse son bras droit en avant, la paume de la main redressée pour exécuter le salut franquiste, variante du salut hitlérien. Les quelques invités de marque, des officiellement présents en premier rang, acquiescent d'un mouvement de tête, bien sûr. Les spectateurs parisiens, eux, invectivent Ferrer, évidemment. Il faut plusieurs minutes au service d'ordre pour ramener le calme dans la salle. Présent sur place à quelques mètres du ring, Jacques Godet, directeur du journal Lotto, témoigne.
Nos amis d'Espagne sont braves. Ferrer est monté sur le ring du Veldiv comme il est arrivé au pied de la tour Eiffel. L'air candide, les mains derrière le dos, l'œil amusé du touriste qui s'en tient à une inspection extérieure des monuments. Sans doute y avait-il dans cette naïveté d'attitude, dans cette ignorance voulue, une part de cette bravoure qui distingue à travers le monde un gentilhomme de Castille ou d'Aragon. La boxe est un combat moderne qui ne saurait se satisfaire de bravoure. Venir innocemment se faire tuer entre quatre cordes n'est pas un titre de gloire pour les critiques des compétitions sportives. Comment juger Cerdan ? On ne juge ni la foudre ni la tempête. On les constate, on les subit. On peut, par un miracle de ruse ou de prudence, y prendre garde, mais on ne peut jamais y échapper. Monsieur Ferrer, lui, est sorti sous l'orage sans parapluie ni imperméable. Et son joli menton est alors la meilleure cible du monde pour le bombardier Cerdan.
Cerné par les innombrables regards d'une foule de plus de 20 000 spectateurs, éclairé par la lumière blanche d'un millier d'ampoules accrochées sous la voûte noire vitrée de la salle, scruté par des dizaines de soldats allemands en uniforme, le boxeur espagnol José Ferrer, 23 ans, et le français Marcel Cerdan, 26 ans, se font face pour ce match si attendu. Car le vainqueur deviendra champion d'Europe de boxe des poids mi-moyens. Sur le ring, carré de 7 mètres sur 7, délimité par des cordes blanches, situé à 1 mètre au-dessus du sol, il n'y a pas d'échappatoire. Le plus fort des deux boxeurs va tenter d'imposer son rythme et frapper le premier. Le plus faible, lui, va essayer tant bien que mal d'esquiver et de s'échapper. Deux stratégies s'affrontent alors pour la victoire. Tenter d'en finir au plus vite par KO, ou faire durer le combat et miser sur une faute de l'adversaire pour récupérer des points. Assis à quelques mètres seulement du ring, le journaliste de Lotto, George Peters, est le témoin privilégié de cette passe d'armes entre les deux champions. Cerdan, écrit Peters, a ce soir les traits tirés par la volonté, le visage blême, les muscles frémissants. Ferrer, lui, arbore la candeur du novice avec un sourire optimiste. Lorsque la cloche sonne, le champion espagnol est le premier à jaillir sur son adversaire. Et il y va franco, si je puis dire. Trop d'ailleurs. Il se risque à avancer imprudemment à découvert, la bouche ouverte, une erreur de débutant. Alors, Cerdan, le poing gauche tendu, le tient à distance. Puis au bout d'à peine 5 secondes, le français décoche un formidable crochet court du droit. Le coup de poing s'écrase sur le visage de Ferrer. L'espagnol perd l'équilibre, il est sonné. George Peters raconte.
Ferrer se retrouve au tapis et commet alors une deuxième faute, plus grave encore peut-être que la première. Plutôt que de songer un instant à récupérer, il se relève aussitôt alors que l'arbitre vient à peine de prendre la cadence du chronométreur. Ferrer, dès lors, était jugé. Ce boxeur combattait décidément en commettant les fautes d'un novice. Son exécution se poursuit alors à rythme accéléré.
Ferrer debout, l'arbitre laisse jouer. Cerdan n'hésite pas une seconde. Le bombardier marocain bondit et assène un nouveau coup de droit à son adversaire. Un punch dévastateur. L'Espagnol retourne au tapis. Et une fois encore, il se redresse sans même prendre le temps de retrouver ses forces. Mais Cerdan déchaîne la foudre sur lui. Une série de corps crochets du droit, terrible. Pris en tenaille d'un côté par les cordes, de l'autre par cette pluie de coups, Ferrer est désemparé. Il ne peut rien faire, il est piégé, son sort semble scellé.
Titubant, reprenant péniblement son équilibre, Ferrer est de nouveau envoyé au tapis trois fois de suite. Il prend le temps des 9 secondes, frise donc le chaos, mais se relève. Le visage hébété de l'Espagnol trahit sa détresse. Il ne comprend plus, et Cerdan, impitoyable, poursuit.
Après deux nouveaux knockdowns de 7 et 4 secondes où Ferrer se retrouve face contre terre, le manager de l'Espagnol jette sa serviette. Ce qui en boxe signifie que le boxeur abandonne. Donc, le match se termine. Il aura duré à peine 85 secondes. Cerdan victorieux sur le ring. Dans les tribunes du Veldiv, la foule se lève et applaudit. Assis tout près, le chanteur Maurice Chevalier frappe dans ses mains. Et il se produit alors un fait unique sous l'occupation. Les spectateurs se mettent à chanter la Marseillaise, l'hymne national interdit par les autorités allemandes depuis juin 40, toléré pour les manifestations sportives, certes, mais très mal vu. Alors plus qu'un symbole de défiance ce soir. En entonnant la Marseillaise, issue de la République honnie par Pétain et sa clique, c'est toute la France occupée qui gifle l'occupant nazi et son complice de Vichy. Interrogé après le combat par Fernand Lebouge de l'Auto, Cerdan explique. Redevenir champion d'Europe et n'avoir reçu qu'un seul coup de poing, c'est une performance dont je suis fier. Mais contre un adversaire que je ne connaissais pas du tout, j'ai employé ma méthode favorite, contre et remise immédiate de crochet court, vous voyez que cela m'a réussi. Pas rancunier, et même amusé par le spectacle que vient de leur offrir Cerdan, petit homme brun, trapu bien loin de leur idéal racial, auquel ils sont loin de tous ressembler d'ailleurs, les officiers allemands lui rendent visite dans sa loge après le match. Il l'invite à se joindre à eux pour un cocktail et lui propose une collaboration. S'agit-il de combattre pour eux? Des matchs d'exhibition en Allemagne? Le boxeur français décline. Dès le lendemain, le nouveau champion d'Europe de boxe des poids moyens repart pour Marseille sans réclamer la bourse du combat. Puis il embarque à bord d'un bateau pour le Maroc, car Cerdan se sait menacé. Il ne reviendra en métropole qu'à la Libération en 1945.
Ici Orly, où aujourd'hui nous attendons l'arrivée de Marcel Cerdan, d'Édith Piaf. Il vient faire un petit séjour en France. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, le terrain d'Orly a été envahi par une foule extraordinaire de journalistes, de cinéastes, de curieux, même qui sont venus maintenant se masser autour du Constellation d'Air France, qui vient de se poser à l'instant sur l'air d'Orly. Est-ce que vous pourriez appeler Cerdan qui est là-bas et qui est en train de signer encore des autographes? Cerdan, s'il te plaît, est-ce que tu veux venir une fois au micro? Ah, le voilà enfin. C'est assez difficile d'ailleurs de l'avoir parce qu'il y a une foule telle ici. Alors Marcel, je voudrais... Marcel qui est un peu blessé à la lèvre, mais c'est pas grand-chose, c'est rien ce que tu as là.
C'est de la fièvre.
C'est de la fièvre. Est-ce que tu as fait un bon voyage?
Un très bon voyage.
Parce que Jean Longman m'a dit tout à l'heure qu'il était avec vous, qu'il avait été fatigué par le voyage.
Ah, mais lui, il a pas le pied marin.
Il a pas le pied marin. Bon, Marcel, je voudrais que tu me dises, avant de terminer, tu as vu Édith Piaf. Oui. Édith Piaf qui nous a parlé tout à l'heure de son combat. Alors je voudrais bien qu'il nous parle un petit peu d'elle.
Oh, elle est formidable, cette femme.
Elle est formidable.
Surtout à l'étranger, c'était quand on a chanté Édith Piaf. Lever une salle américaine, c'est formidable.
La suite et la fin de l'aventure de Marcel Cerdan, vous venez de l'entendre, s'écrit après la fin de la guerre. Au micro de journalistes qui l'attendent à l'aéroport d'Orly en 1948, au retour de l'un de ses nombreux voyages victorieux en Amérique, Cerdan dévoile ses projets et son ambition. À 32 ans, il fréquente désormais la chanteuse Édith Piaf qu'il a rencontrée au Club des Cinq à Paris. Entre le boxeur, déjà marié, et la chanteuse, malheureuse en amour, une relation passionnelle et charnelle se crée. Piaf et Cerdan sont inséparables, et le contraste de leur relation entre une belle et une bête va alimenter les articles à leur sujet. De l'avis de nombreux journalistes qui les ont fréquentés, c'est cette relation avec Piaf qui va définitivement donner à Cerdan ce côté glamour qui lui manquait jusqu'alors, faisant de ce gaillard l'égal des acteurs de cinéma français de son temps. Et si, entre-temps, il continue d'enchaîner les victoires en France et en Europe, ses plus beaux faits d'armes sont indiscutablement ceux qu'il réalise de l'autre côté de l'Atlantique. Victorieux notamment du champion américain George Abrams en 1946 au Madison Square Garden de New York. Si Cerdan perd en 48 le titre européen qu'il avait arraché à Ferrer, il se rattrape par une victoire dans le combat du siècle qui le voit détrôner le champion au point d'acier Tony Zale. 12 rounds d'anthologie pour lesquels le public américain se lève comme un seul homme pour applaudir. Champion du monde des poids mi-moyens, une consécration. Entre deux combats, entre deux victoires, Cerdan prend l'avion et part rejoindre sa belle à l'autre bout de la France, de l'Europe et même au-delà de l'Atlantique. À 33 ans, le destin hors norme du gamin Nassili Belabès, celui qui venait d'une famille pauvre, celui qui s'était retrouvé contraint par son père à boxer, celui qui avait gravi à l'un les échelons de la boxe, va se briser au milieu de l'océan Atlantique Nord. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 1949, alors qu'il se rend aux États-Unis pour rejoindre Edith Piaf, Marcel Cerdan trouve la mort dans le crash de son avion au large des îles Canaries. La cérémonie d'hommage en son honneur rassemble plusieurs milliers d'anonymes. Cerdan laisse derrière lui une carrière sportive exceptionnelle et surtout des valeurs d'humanité rares. Il laisse surtout le sentiment d'un parcours inachevé. Si une phrase devait résumer l'engagement, l'humilité et la détermination inébranlable de cet immense champion, ce serait sans doute cette déclaration qu'il avait faite lui-même à des journalistes en 1947. « J'ai toujours peur des coups que je reçois, comme j'ai peur des coups que je donne. Pour le plaisir d'une foule en délire, je peux tuer un homme, comme je peux aussi me faire tuer. »
S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, je m'abandonne les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, je m'abandonne si tu m'aimes, car moi j'aimerais aussi. Nous aurons l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Affaire corde sensible, comme celle d'Édith Piaf que nous venons d'écouter. Cerdan au Veldiv, donc, une histoire que nous allons commenter avec notre invité Jean-Philippe Lustig. Bonjour.
Bonjour Fabrice, bonjour, bonjour à tous.
Journal L'Équipe, bien sûr, notre partenaire, vous êtes un journaliste sportif, spécialiste de l'histoire de la boxe et l'auteur du grand livre de la boxe, c'est vraiment un grand livre, hein, un grand livre de la boxe, paru en 2019 aux éditions...
Il fait 2 kilos, c'est pour ça qu'il est grand.
Marabout, 2 kilos, c'est vrai. Jean-Philippe Lustig, comment replacer ce combat Cerdan-Ferrer dans la carrière du champion français? Je veux dire, est-ce qu'on est là face à l'un des matchs les plus importants qu'il a eu à jouer, ou est-ce qu'on se penche dessus pour le contexte? Ou les deux, peut-être?
Oui, alors je pense que voilà, c'est un mélange un petit peu de tout. Ce combat est important, il n'est pas capital, il est donc important vu le contexte, bien entendu, vous avez parfaitement expliqué dans cette narration sublime et émouvante, hein, et de cette période tellement douloureuse.
Merci.
Et lui, Marcel, qui est le symbole de la liberté, de l'indépendance, c'est un élément important, et qui est en même temps le sportif français le plus populaire déjà en 1942. Donc ce combat n'est pas en soi le plus important, parce que l'adversaire, qui est donc José Ferrer, champion d'Europe des mi-moyens à ce moment-là, on est à 66 kilos, il a déjà été champion d'Europe 3 ans auparavant, Marcel, et sa carrière s'est donc interrompue à cause de cette guerre pendant 16 mois.
Bien sûr.
Et donc il remonte sur le ring, et là c'est un non-match, on l'a parfaitement entendu et décrit, c'est un non-match parce que son adversaire va 9 fois au tapis, donc 9 fois que son genou, ses mains touchent le sol, même si l'arbitre le contraste 5 fois. Donc c'est une humiliation totale par un boxeur qui est foudroyant, qui a la boxe envoûtante, qui est unique dans l'histoire de ce sport, qui est donc Marcel Cerdan, et qui a cette force en lui, ce don, qu'a donc le punch, et ça lui permet de remporter ce titre des poids mi-moyens ou poids welter quand on parle de façon anglaise.
Voilà. C'est donc bien mi-moyen. Hein.
Mais après, il sera champion du monde des moyens.
Moyens, parce que le commentateur disait juste avant, exactement, les moyens.
Mais... Non, erreur de nos amis des archives, ouais, de l'époque, il y a 70 ans, non, 80 ans, que dis-je, hein, mais 81 ans d'ailleurs, bientôt. Donc non, c'est donc un championnat d'Europe dans la catégorie des poids welter, et Marcel sera le roi des poids moyens, donc il aura pris un petit peu de poids après la guerre.
Mais c'est quoi le poids moyen?
C'est 72 kilos la limite, 72-500. Et d'accord, les poids welter, on est à 66-600. Donc il y a 6 kilos de différence.
Ouais, c'est pas rien.
Et donc il y a cette pesée qui se déroule le matin où ils doivent respecter cette limite et perdre le poids supplémentaire s'ils ne font pas cette limite.
Alors, on parle d'un combat qui dure 85 secondes. Oui. Je ne suis pas un spécialiste de la boxe, de façon un peu hypocrite de dire que j'y connais rien, mais on se dit 85 secondes, c'est 1 minute 25. On paye une place pour 1 minute 25. Alors, ça fait partie du truc, bien sûr.
Ah oui, mais c'est tellement fort. Ouais. Vous savez, cette boxe qu'on retrouve fascinante, et on l'a évoqué avec Ali dans Affaires Sensibles ou d'autres encore, boxeurs mythiques, il y a encore quelques années, Tyson, les gens se levaient ou assistaient à des combats qui duraient un round, donc 2 minutes, 3 minutes seulement. C'est l'intensité, c'est l'émotion dégagée. La boxe, au maximum, c'est 12 rounds. À l'époque, c'est donc un 15 rounds, ce championnat d'Europe. Au maximum, 15 rounds. Mais il y a une telle vitesse, il y a une telle force, il y a une telle émotion, si vous voulez, que oui, le combat est très court. Et papa me racontait, lorsqu'il avait une fois accompagné son papa pour aller voir un match, et il l'avait loupé, donc Marcel Cerdan, au Palais des Sports, parce que le temps qui se baisse, le combat avait été... Donc, et il avait manqué, en quelque sorte, le coup fatal. Donc voilà, donc il n'y a pas de frustration, on ne dira jamais le combat a été trop court. L'important, c'est que Cerdan gagne, et c'est un élément qui, je pense, pourra nous éclairer encore un petit peu plus. Cerdan a peur, tous les boxeurs ont peur, il est blême sur le ring, il contrôle cette peur. La boxe, Il l'a accepté, contraint et forcé par son papa, on l'a parfaitement expliqué dans la narration au début, lui qui est un fou de football et qui joue super bien au ballon. Il est très coordonné, il a un très bon jeu de tête, il est rapide, il est vif, il a un dribble formidable. Et la boxe, il est contraint et forcé, mais il a un don. Il a d'ailleurs cette morphologie naturelle de trapèze très développée, de ce petit coup, et un coup de taureau. Il a des trapèzes, et on l'entend à un moment donné d'ailleurs, oh, vous êtes solide, vous.
Vous êtes bien bâti.
Voilà, t'es bien bâti.
Le journaliste avec cet accent de...
Ah oui, c'est incroyable.
Ah, et donc, bien bâti.
Et, ben voilà. Et ça lui permet de gagner vite parce qu'il a une force donc, qui est un don du ciel. Hein, la puissance, c'est le rapport poids, vitesse et puissance.
Ouais.
Et comme il frappe très fort et qu'il n'aime pas la boxe, il ne veut pas abréger des souffrances à ses adversaires.
Attends, vous venez de dire qu'il n'aime pas la boxe.
Il n'aime pas la boxe.
C'est merveilleux ça.
Non mais c'est incroyable. Marcel Cerdan a été contraint de boxer. Il n'aime pas ce sport. Et c'est une souffrance pour lui que de voir ses adversaires souffrir. Donc pour leur abréger les souffrances, il va gagner vite. Et d'ailleurs, après chacune de ses victoires, il a toujours des gestes pleins d'humanité. Je vais voir mon adversaire, je le réconforte, je le prends par les épaules. Et de très nombreux adversaires, on a entendu Despot, on a entendu Valzac. C'est des noms qui marquent pour les générations anciennes, ces boxeurs qui étaient dans cette période dorée de la boxe en France dans les années 40. Eh bien, ces boxeurs-là racontent qu'à l'issue de combats, parfois lorsque le match allait à son terme, donc à la limite, très souvent ils demandaient à Marcel, dans un petit coin, dans un petit creux de l'oreille, dans un corps à corps, « J'ai des enfants, sois gentil, ménage-moi, s'il te plaît, m'abîme pas trop. » Mais c'est fou.
Ah ben oui, c'est passionnant ce que vous dites là.
Et Cerdan acceptait ça. Et voilà. Et malgré ça, quand il fallait mettre au tapis Ferrer, il l'a mis au tapis.
Ouais, bah oui.
Ce boxeur de Barcelone-là qui a été tétanisé, il a explosé.
Est-ce que c'est pour toutes ces raisons que vous venez de me dire il était le sportif le plus populaire de l'époque?
Oui. Ah mais oui, c'est sidérant. On ne se rend pas compte de l'impact de Cerdan, de sa popularité. Lorsqu'il gagne ce titre mondial le 21 septembre 1948, qu'il revient dans les locaux du Faubourg Montmartre du journal L'Équipe, qui va tirer à plus d'1 million d'exemplaires ce soir-là, le lendemain, il est acclamé par des centaines de milliers de spectateurs dans la rue avec cette voiture décapotable. Lorsqu'il disparaît, de façon tragique, c'est un drame national. Cerdan, l'histoire d'amour a amplifié avec
Piaf.
Et donc,
Piaf,
on, voilà, on dirait que c'est un peu, dans un terme très moderne, pipolisé. Voilà, ce qui n'existe pas à l'époque.
Mm-hmm.
Mais il a un impact sur les gens. Et ce contraste est saisissant. On l'a entendu avec ses témoignages. Fabuleux, je me suis régalé. Vous avez vu cette petite voix fluette,
oui,
touchante?
Mais bien sûr. Ah, bah oui, ça, je l'ai entendu 10 fois avant de la diffuser.
Mais j'imagine, Fabrice. Non, mais c'est terrible. Et en même temps, la puissance qui dégage. Donc, c'est cela. Et d'ailleurs, comme il est peu à l'aise avec le micro, il y a des archives d'époque qui le montrent lorsqu'il répond aux caméras. Son manager, Lucien Roupe, évoqué aussi dans cette narration, Lucien Roupe lui soufflait très souvent ce qu'il devait dire. Il se mettait près de lui, légèrement en retrait, et dans le coin de son oreille, il lui disait « Voilà ce que tu vas répondre.
Ouais. »
Il n'était pas à l'aise avec les caméras. Mais il est tellement touchant. Moi, il m'émeut. Hein. Voilà, et je ne l'ai pas connu par la force des choses. Vous imaginez, il est parti il y a tellement longtemps.
Bien sûr.
Mais c'est un personnage fou, Cerdan. Puis le champion, au-delà de tout ça. Vous savez, juste un élément sur son palmarès. Lorsqu'il rencontre Ferrer, il a gagné 67 combats sur 69.
Ah oui.
67. Et les deux perdus sont par disqualification. Donc injustifié.
C'est-à-dire disqualification.
C'est-à-dire qu'il a donné un coup interdit en dessous de la ceinture.
D'accord.
Mais pas de façon volontaire parce qu'il est très...
Oui, on l'a dit, trop bas, effectivement. Un coup trop bas, trop dangereux.
Exactement. Donc, dans la coquille, vous savez que les boxeurs ont le bas-ventre protégé par une coquille.
Mmh.
Et que théoriquement, on ne doit pas toucher donc la coquille. Et lui, dans cette boxe fougueuse, on parle de l'ouragan. Et bien, parfois, il donnait des coups trop vite, mais sans la volonté de boxer de façon irrégulière. Donc, le palmarès est sensationnel. C'est un champion colossal, Marcel Cerdan.
Il avait peur. Et, alors, est-ce que ses adversaires avaient peur de lui, pour le coup?
Oui. Il a le même impact, Cerdan, que Tyson aura eu dans les poids lourds. Les adversaires de Tyson, vous voyez le lapsus, les adversaires de Cerdan savent qu'ils ont en face de lui un phénomène qui va tellement vite. Mais quand on regarde les archives d'époque et qu'on compare avec la boxe actuelle, mais elle n'a pas bougé. La boxe de Cerdan, il pourrait rivaliser avec n'importe quel champion aujourd'hui.
Ah oui, c'est ce qui est rare dans d'autres sports.
Exactement.
D'ailleurs.
Et là, non, on a des éléments de comparaison et on se dit, mais cette boxe, elle est extraordinaire, elle est tellement moderne. Et puis elle est inspirée, même s'il n'aime pas la boxe. Il a un don. Il a un don. Au-delà de sa puissance, le coup d'œil, le petit pas de retrait pour les puristes, clac, clac, en un centième, pac, je touche. Ah non, c'est magnifique, c'est sublime.
Qu'est-ce que vous en parlez bien?
Ah bon, c'est gentil.
Ah, bah, vous êtes passionné. On va vous retrouver avec plaisir dans 3 minutes après avoir écouté Gabriel's of Rings.
Don't want your love and want no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my dues. Won't won't let you get me twice. Mama ain't raised no fool, I know you're to kill a mockingbird bright. My daddy taught me a thing or two, you better heed my advice.
Give me something,
show me this thing was meant to be.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Jean-Philippe Lustig, remettez vos gants. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à l'équipe, spécialiste de la boxe et passionné de la boxe. Je vais encore vous poser une question de béotien, si je peux me permettre. Les poids lourds, c'est la catégorie reine en boxe.
Oui,
et pourquoi?
Parce que les hommes forts fascinent, parce que ce sont eux les plus connus, parce que l'histoire de la boxe est avant tout l'histoire des poids lourds, et on retient Ali, on retient Tyson, on retient ces boxeurs-là, parce que ce sont les héros de leur temps, et même Don King, vous savez, ce célèbre promoteur avec ses cheveux qui montent vers le ciel, on a toujours l'impression qu'il se mettait tous les matins un peu les doigts dedans du 220 volts, vous voyez, c'est lui qui avait organisé le fameux match à Kinshasa contre Foreman.
Ah oui.
Donc Don King disait... Pendant longtemps, ça, c'est plus le cas vraiment maintenant, mais pendant 70 ans d'histoire, le poids lourd était aussi connu que le pape.
Ouais.
Donc c'est le fait que ce sont les hommes forts, c'est ce qu'on appelle la catégorie reine. Voilà, d'être champion du monde des poids lourds, on se dit, mais il n'y a aucun boxeur qui peut le battre. Donc, et c'est pour ça que ce sont vraiment les héros de leur temps.
Voilà, c'est pour ça qu'un combat comme Mohamed Ali contre Joe Frazier en 1971, souvenir de gamin, mais c'était très fort, c'était des poids lourds, on est bien d'accord?
Bien sûr, bon, voilà, exactement, au Madison Square Garden de New York.
Est-ce que ça vous touche le contexte dans lequel s'est joué le match du Veldiv en pleine occupation avec Ferrer le franquiste, le salut fasciste? Ça vous touche?
Mais ça montre... À quel point parfois le sport et la boxe aussi, mais le sport va prendre le dessus sur un contexte politique. Et très souvent, il y a un événement qui fait qu'on oublie ce qui se passe, on va au-delà.
Ouais.
Le fait que le public reprenne la Marseillaise alors qu'elle est interdite dans cette zone occupée par les Allemands depuis juin 40, hein, et
oui, c'est un acte de résistance.
Mais complètement. Et même de la part de Cerdan aussi, qui refuse après d'aller signer la main de ces dignitaires nazis qui assistent et qui n'ont pas payé. Donc, c'est ce contexte-là. Il y a eu des événements comme cela dans l'histoire du sport où, malgré cette situation, eh bien, il y a une dimension sportive émotionnelle qui prend le pas et on fait preuve de courage. On ne pense pas aux conséquences que cela pourrait avoir. Que, à la suite de cela, Marcel Cerdan, qui refuse un dignitaire ou de serrer la main, puisse être arrêté, par exemple. Ce n'est pas impossible, on peut imaginer. Voilà. Bien sûr. Il y a eu des sportifs, malheureusement, qui ont entré en résistance ou même avant et qui ont terminé dans les camps de concentration. Donc, ou alors, ont été fusillés.
Revenons au sport. Qu'est-il arrivé à Ferrer, ce jour-là? Parce que quand même, c'est pas...
Tétanisé.
C'est pas perdre d'année, quoi.
Non, tétanisé. Ferrer, il a 23 ans, à ce moment-là. Et donc, il est plus jeune. 25 victoires, 2 défaites, 4 nuls. Hein, première fois qu'il sort de sa Barcelone natale, puisqu'il est de la région, il est de Catalogne. Et il a fait toute sa carrière dans son coin, dans sa région. Il n'est jamais sorti de ce nord de l'Espagne. Et c'est la première fois qu'il vient en France. Donc, un contexte qui pourtant pourrait lui être favorable parce que il est franquiste et le contexte politique et le nazisme qui est à Paris. Mais en revanche, sur un plan sportif, il affronte un boxeur qui lui est supérieur, bien qu'il soit plus grand. Il a donc 6 cm de plus, mais il est tendre, il est trop tendre pour ce combat. Et d'ailleurs, il y aura un match revanche à Barcelone en 1946.
Et ça donne quoi?
Il est KO.
Qui? D'accord, Ferrer.
Ferrer, bien sûr, en 4 rounds. En 4 rounds.
Et donc Ferrer, il aggrave son cas, quoi.
Ouais, voilà, donc il a tenu un peu plus longtemps. Mais à ce moment-là, il est. Et là, on est dans la catégorie des poids moyens. Cerdan a pris du poids après la guerre. Voilà, il est monté dans la catégorie supérieure. D'ailleurs, il deviendra le fameux champion du monde des poids moyens.
Alors, justement, face au champion au poing d'acier, Tolly Zales, c'était en 1948. Ouais. C'est une victoire d'anthologie. C'est ça, c'est son grand exploit, on peut dire.
C'est la plus belle.
Ouais. Comment ça se passe?
C'est la plus mythique. C'est magnifique. Nous sommes à Jersey City, 21 septembre 48. Il est 4h30 du matin en France. D'ailleurs, la retransmission se fera en direct par Pierre Crenès, qui était le correspondant à l'époque sur la radio à New York et qui ne connaissait rien à la boxe. Pas du tout.
Donc il va. Un autre.
Non, mais c'est pas grave. Non, mais en revanche, il va utiliser des termes. Mais c'est pas grave parce que, à sa manière, il va expliquer ce qu'il voit. Mais on se moque qu'il ne soit pas spécialiste. Et donc, ce combat est un événement considérable parce qu'il va redonner de la splendeur, de la grandeur à cette France battue. On est en 48, la France se reconstruit. Et Cerdan est le symbole. Les alliés ont gagné. L'Amérique a gagné, bien entendu, avec l'appui de tous les alliés. Et lui, Cerdan, va aller défier Tony Zell, l'Américain, sur ses terres. Tony Zell est un boxeur d'origine polonaise. Il venait de Chicago, il venait du Nord, dur au mal, plus grand, 1m80. Et il fait un combat mythique, bien que Cerdan, en fin de carrière, ait donc 32 ans, qu'il dispute son 110e combat à ce moment-là, et qu'il n'est plus le boxeur génial qu'il était même en 42. Il est en fin de carrière, mais il est encore au-dessus. Et d'ailleurs, il va disloquer en quelque sorte son adversaire qui va...
Disloquer carrément.
Ah mais oui, parce que quand il tombe, il tombe comme un pantin désarticulé, lentement il s'écroule. Dans le 11e, Cerdan d'ailleurs l'aidera à se relever, il devient champion du monde, Tony Zell ne boxera plus jamais après ce combat. Il aura eu tellement mal.
Ah ouais.
Et Cerdan ne pourra pas défendre, sera battu quelques mois plus tard, un soir de 16 juin à Détroit, devant Jack LaMotta. C'est une autre histoire.
Jack LaMotta, voilà encore une histoire de boxeur passionnant.
Il y a des choses incroyables dans cette période-là et toute cette boxe. Et oui, Jack LaMotta bat Cerdan, parce que Cerdan est blessé à l'épaule. Et Cerdan perd son titre de champion du monde. Et le combat revanche est donc signé pour le mois de décembre. Et Marcel Cerdan meurt sur le chemin de la revanche. Et au lieu de prendre le bateau à la demande d'Edith Piaf, qui se languit, lui, viens vite me retrouver, prends l'avion s'il te plaît.
Ouais.
Et il prend cet avion qui se, malheureusement, qui heurte dans cette île
Canary.
Entre les 27 et 28 octobre, dans la nuit. Et donc, il devait atterrir puisqu'il y avait une escale avec son Constellation. Ah, c'est une histoire terrible. Mais on a l'impression même que dans le cœur, Cerdan n'a jamais disparu, finalement. C'est-à-dire qu'il meurt au sommet, il meurt en plein vol.
C'est qu'à te le dire.
Ouais.
C'est une réalité dramatique, c'est une métaphore.
C'est pour ça.
Je vous pose une dernière question, vous avez 10 secondes pour répondre, ça tombe bien, on peut y répondre par oui ou par non. Ouais. Non ou par un numéro. Quelle place tient Marcel Cerdan, à votre avis, dans le panthéon de la boxe française?
Les deux premières, avec Georges Carpentier.
Ah oui,
voilà, c'est les deux plus grands, et de loin. Et même l'un des plus grands sportifs français de l'histoire.
Parfait, je sonne la fin du gong, la fin du round, Jean-Philippe Lustig. Merci.
Merci Flavien.
Infiniment, à la fois pour ce que vous savez de la boxe et la passion que vous avez à transmettre tout ça. Merci.
Merci beaucoup, c'est gentil.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Marcel Cerdan, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé.